Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Amandine de Pérignon, qui est la conservatrice du musée du Vieux-Toulouse.
Bonjour chers auditeurs.
Et nous allons aborder avec un invité qu'Amandine va vous présenter, la nouvelle exposition qui a été tout fraîchement inaugurée, qui est l'exposition estivale, qui est consacrée à André-Pierre Lupiac.
Oui, effectivement, depuis quelques jours, les visiteurs peuvent voir cette exposition consacrée à André-Pierre Lupiac. Et nous avons souhaité convier le commissaire de cette exposition, celui qui a un peu planché sur le sujet, c'est-à-dire Christian Mange.
Bonjour, alors, bonjour à tous.
Alors Christian Mange est mon ancien prof de fac et j'ai eu le bonheur de retravailler avec lui donc sur ce projet fort intéressant qu'on vous propose de découvrir ensemble. Christian donc a été prof à l'université de Toulouse Jean Jaurès pendant quelques années et se consacrait à l'histoire de l'art contemporain. Alors donc on vous propose de partir sur les traces d'André-Pierre Lupiac. Peut-être Christian, pouvez-vous nous parler des origines tout simplement de Lupiac?
Bien sûr. André Lupiac est né le 12 septembre 1873 à Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien. Précisément place Olivier, où sa famille tenait une auberge. C'est un enfant naturel, non reconnu par son père, le docteur Cancel, un médecin colonial parti en Algérie.
Et donc il est né en 1873, ça veut dire que tout petit, il a vécu la grande crue de la Garonne de 1875.
Effectivement, il a vécu, il a été éloigné dans la campagne toulousaine.
Un épisode marquant, j'imagine. Ouais. Alors, je suppose que assez rapidement, il fréquente l'école des Beaux-Arts, n'est-ce pas ?
En effet, il entre en 1890 à l'école des Beaux-Arts de Toulouse, où il a pour condisciples des artistes comme Béringuier, Cazel, Vivent et surtout Félix Cambon, qui devient son grand ami durant toute son existence. Il reçoit là une formation académique où il développe son intérêt pour la peinture d'histoire.
Et il a fait toute sa scolarité à l'école des Beaux-Arts? Il n'a pas cherché à apprendre ailleurs?
Alors, après l'école des Beaux-Arts, il est monté à Paris, où il a été, dans ce qu'on dit sur lui, élève de Jean-Paul Laurence, Benjamin Constant. Mais son séjour à Paris reste bref. Et il redescend assez rapidement à Toulouse, où il décide de mener carrière.
Alors, quels sont les premiers tableaux qu'ils font connaître, finalement? Et surtout, où expose-t-il à cette époque-là? Quels sont les lieux où on peut voir la peinture qui est en train de se produire à Toulouse?
Février 1899 est une date importante dans sa carrière, puisqu'il réalise, à l'âge de 26 ans, une exposition personnelle dans le hall de la Dépêche. Il expose là 25 œuvres et on peut dire que déjà sont présentes les caractéristiques essentielles de sa production à venir, son goût pour le paysage et surtout son goût pour les scènes historiques choisies dans l'Antiquité et dans la mythologie.
Alors, quelle est son implication dans le réseau de la vie artistique à Toulouse?
Il est installé à Toulouse, on est au début du XXe siècle, 1905. Deuxième année importante dans sa carrière, à cette date en effet, il fonde avec la jeune génération des artistes toulousains deux institutions qui vont marquer la vie artistique locale, la création de l'Académie Tolosa, une académie de dessin bien connue, qui repose sur l'étude du modèle vivant et en atelier et en plein air, c'est-à-dire l'étude du nu dans la tradition classique de la peinture et dans la modernité impressionniste. Deuxième institution importante, la création de la Société des artistes méridionaux, où Lupiac peut exposer ses œuvres sans contrainte. Il y expose de 1906 à 1951 plus de 200 œuvres, peintures et dessins. À partir de cette date, la carrière de Lupiac se déploie dans toute sa splendeur jusqu'à son décès en 1956.
Alors, dans notre expo, il se trouve qu'effectivement, on évoque cette création de l'Académie Tolosa avec quelques documents et notamment ces photos qui montrent des modèles nus en plein air. Tout ça, c'est assez amusant, assez pittoresque. et bien sûr la Société des artistes méridionaux dont il est souvent question sur les cimaises du musée du Vieux Toulouse, où il a créé de nombreuses affiches pour le salon et dont on présente une des affiches emblématiques de 1913. Alors, comment peut-on caractériser sa peinture ?
Dupiac est à la fois un artiste singulier et un artiste tout à fait inscrit dans son temps. Pétri de culture classique, il a le goût de la peinture d'histoire. Il développe dans sa peinture et dans ses dessins le rêve d'une antiquité et d'une mythologie revisitée, peuplée de faunes, de centaures, de bacchantes, de nymphes, de déesses. Sa trilogie urbaine, Athènes, Rome, Byzance. Il ne faut pas le cacher, ses sujets sont souvent prétextes à des scènes sensuelles, voire érotiques. Le nu féminin est très présent dans son œuvre. Autre singularité, Dupiac teinte ses compositions d'une note d'humour. Par exemple, dans une scène mythologique, il introduit le détail d'un papier de cigarette à rouler, la marque Job, pour ne pas la nommer.
Très célèbre.
En quoi Dupiac a été un artiste de son temps, finalement ?
Cet artiste a répondu à des commandes monumentales importantes. En 1928, il apporte sa contribution au décor de la salle du conseil municipal de Toulouse, commencé au début du XXe siècle. Ce n'est pas rien. C'est la salle la plus politique de la cité. Il donne là trois peintures. En 1928, il exécute un grand format, son chef-d'œuvre, Le Vent d'Otan, qui complète deux ans plus tard par une nouvelle composition mettant en valeur les Jacobins. Et puis, en 1938, il peint un caisson au plafond, la paix favorisant le commerce. Dans Le Vent d'Otan, on ressent le style qui est alors en vogue durant l'entre-deux-guerres, l'art déco que l'on retrouve dans tous ces grands décors civils que l'on peut voir à Bordeaux, par exemple.
Dupiac a-t-il réalisé d'autres décors monumentaux ?
Oui, il a réalisé à partir de 1936 la décoration du cœur de l'église Saint-François d'Assise à Toulouse, mais ça sera l'objet d'un prochain entretien.
Alors la Première Guerre mondiale est souvent une rupture dans la vie des artistes toulousains. Qu'en est-il pour André-Pierre Dupiac ?
Effectivement, la Première Guerre mondiale a constitué pour notre homme une parenthèse artistique. Dupiac est un artiste combattant. Il est mobilisé sur le front de la Marne en 1915 et 1917, avant d'être réformé en 1917 pour bronchite chronique. Il a traversé cette période terrible en artiste. Dans des carnets de dessins sur le terrain, il saisit des choses vues, par exemple des paysages désertés peuplés de tombes. Ce sont des documents modestes, des témoignages, mais tellement émouvants, et on en a exposé un certain nombre dans notre exposition. Et puis, au retour de la guerre à Toulouse, il a eu sans doute besoin d'exorciser ce qu'il a vécu durant la Grande Guerre. Il réalise une série de fusains et pastels extraordinaires. Extraordinaires dans la mesure où il constate que les schémas formels du passé ne peuvent pas dire les horreurs d'une guerre moderne, des millions de morts, l'emploi d'armes nouvelles, les tanks, les avions, les gaz, la vie dans les tranchées. Il faut donc inventer une manière nouvelle de dire une guerre nouvelle, ce qui l'oblige à sortir de sa zone de confort artistique. Je n'en dis pas plus. Ces œuvres très fortes n'ont jamais été étudiées ni montrées, et on peut les voir à notre exposition. Une raison supplémentaire de découvrir au musée du Vieux-Toulouse un artiste méconnu qui mérite vraiment le coup d'œil.
Alors, qui mérite le plus que le coup d'œil, effectivement. Et puis, c'est un artiste, un personnage attachant, au-delà de cette production qui est étonnante et c'est vrai, singulière dans le paysage des artistes méridionaux de l'époque. Nous, à travers ces archives, nous sommes attachés à l'homme qu'il était aussi.
À l'homme qu'il a été et à la tragédie qu'il a subie durant sa vie, puisqu'il a un fils.
Lui-même artiste,
André Dupiac, qui est mobilisé sur le front de la Marne, donc durant la guerre de 14-18. Et là, ce fils va respirer les fameux gaz moutarde. Il revient, ce fils, à Toulouse en 1919, ils sont quai de Tunis. Voilà. Et apparemment indemne, mais quelques années plus tard, en 1923, il meurt. Des suites, donc, de ces gaz moutarde qu'il a avalés dans les tranchées à Verdun. Et pour le père, c'est un choc terrible. Il perd son fils, son seul fils. Il perd plus qu'un fils, il perd quelqu'un avec qui il pouvait parler de la guerre. Il perd un frère d'armes. Et son fils s'était lancé dans une carrière artistique. Et donc il perd aussi quelqu'un avec qui il commençait à peindre. Il perd un frère de pinceau. C'est une perte terrible pour le père. Et on le verra dans l'exposition. On a mis un tableau très émouvant où on voit le père rendre hommage à son fils en fleurissant une tombe.
Oui, c'est vrai que c'est une tragédie dont il se remettra jamais, et ça nous a beaucoup touchés. La famille garde les reliques du fils de Lupiac, hein, qui sont conservées, voilà, religieusement, on peut le dire.
Eh bien, on va peut-être en finir là-dessus. J'imagine qu'on peut le voir peut-être dans quelques collections publiques et surtout des collections privées. Donc c'est une chance de venir le voir au musée du Vieux Toulouse. Et l'exposition se tient donc du 19 juin au 20 septembre, toutes les après-midi, de 14h à 18h, sauf les dimanches et jours fériés. Et j'imagine qu'il y a un numéro spécial de l'AUTA qui est dédié à ce grand artiste.
Voilà, que nos visiteurs pourront se procurer dans la salle d'expo, puisqu'il est en vente au prix de 5 €.
Bien, merci Monsieur Manger, merci Amandine.
Merci.
Merci à vous.